Ce soir, nous recevons Raoul Spieber, éducateur et enseignant toranique. Donc, c'est un véritable plaisir de vous recevoir à nouveau sur les ondes de Cannes en français. Bonsoir Raoul.
Bonsoir, merci à vous de m'inviter.
Nous allons parler de la fête de Pourim, événement juif qui arrive à grands pas la semaine prochaine, dans le contexte de la situation actuelle avec la guerre et tout ce qui se passe. Alors Raoul, nous sommes en plein mois d'Adar, la fête de Pourim approche. Pouvons-nous établir une sorte de parallèle entre cette fête de Pourim et la situation conflictuelle aujourd'hui en Israël?
Évidemment. D'abord, la fête de Pourim, nos maîtres enseignent qu'elle restera jusqu'à la fin des temps parce qu'elle enseigne quelque chose de fondamental. Et donc, si c'est fondamental, c'est vrai pour tous et tout le temps. En particulier, en ce moment, elle donne toujours une résonance pour l'actualité. Elle porte un enseignement pour l'actualité. La confrontation avec le mal absolu, la confrontation avec la haine, d'Israël particulièrement. Il y a beaucoup de thèmes, en fait, dans l'histoire d'Esther et donc dans la célébration de Pourim, qui éclaire en fait chaque période et en particulier la période actuelle. Je commencerai par le fait que la Megillah prend soin de nous dire que Haman, quand il veut accuser le peuple d'Israël et donc obtenir un décret d'extermination, il pointe sur le fait que ce peuple est Mefouza ou Mefora ben Amim.
Ce qui veut dire
il est dispersé et divisé parmi les nations. Et il faut savoir que ce thème du peuple juif qui est dispersé, qui est divisé, a toujours été un thème qui est repris par les antisémites. Ils sont partout, ils sont tous différents, mais faites attention, ils sont une menace, etc. Et chez nous, chez nos maîtres, l'idée, ça renvoie à autre chose, ça renvoie au fait qu'entre nous, il y a des fractures, il y a des divisions autant de failles pour les Hamans de toutes les générations. Et évidemment que cette situation nous renvoie aux divisions qui ont précédé Simchat Torah. On a tous en tête le terrible déchirement qu'il y a eu à Kol Nidre sur place Vitingov, en plein office de Kol Nidre, où les affrontements politiques ont été là à déchirer, à empêcher une prière collective. Ça, c'était juste avant Simchat Torah. Encore à Simchat Torah, la veille, les gens discutaient de savoir s'il peut y avoir des célébrations sur le domaine public de Simchat Torah. Vous voyez, on en était là. Mm-hmm. On était dans le combat entre une...
Encore des laïcité, divisions.
Une laïcité violente, agressive, et parfois une religiosité qui pouvait être aussi vue comme étant offensive. Il y avait de toute part un manque de prise en compte du point de vue de l'autre, dont autant de fragilités qui font que les Hamans nous détectent chaque fois qu'il y a cette...
Et en profite pour attaquer aussi.
C'est une faille qui empêche la protection. Et donc... qui est une occasion pour l'attaque. Donc ça, ce problème de l'unité d'Israël, qui ne veut pas dire, je vais juste dire un petit mot là-dessus, l'unité d'Israël qu'on réclame et dont tout le monde parle quand on parle de ça, c'est pas l'uniformité, c'est pas l'unanimité non plus. C'est pas que tout le monde soit d'accord. C'est qu'on soit qu'on sache vivre ensemble,
oui,
en ayant des oppositions,
exactement,
en ayant des désaccords, qu'on sache gérer dans le respect. C'est ça, être ensemble. Être ensemble, ce n'est pas être tous du même point de vue,
utopique.
D'abord, même. C'est impossible, utopique et même très dangereux. Ça,
oui,
c'est, c'est l'uniformité totalitaire qui est toujours imposée par quelques-uns sur tout le monde, vous voyez. C'est pas ça. Il faut qu'il y ait des différences. Il faut, à l'image de nos maîtres, on dit que la sortie d'Égypte, la mer, elle s'est ouverte non pas avec un sentier, mais avec 12 sentiers pour les 12 tribus d'Israël.
Oui.
Et donc, cette résonance, c'est-à-dire cette conjugaison entre la dispute et l'attaque contre Israël, elle est écrite dans la Megillah et elle se produit chaque fois que les ennemis d'Israël en ont l'occasion.
Alors justement, en parlant d'ennemis, on entend souvent que le Hamas est comparé à Amalek. Alors Amalek qui est l'un des plus grands ennemis du peuple juif depuis toujours. Aman, qui est le méchant entre guillemets principal de l'histoire de Pourim, descend aussi d'Amalek. Et c'est celui aussi qui voulait nous exterminer. Est-ce que ce sont le même type d'ennemis auxquels Israël est confronté en 2024?
Alors, je vais vous dire très franchement que je suis toujours très, très réservé sur l'identification d'Amalek. Mm-hmm. Parce que c'est d'abord épouvantable. La Torah nous demande, par rapport à Amalek, de l'attaquer même avant qu'il nous attaque. Et c'est une demande... C'est l'ennemi par excellence, il faut le détruire complètement. Il faut bien comprendre qu'Amalek, ça n'est pas un ennemi comme les autres. Quelle différence entre Amalek et les autres ennemis? Les autres ennemis sont des ennemis qui ont des conflits d'intérêts. Donc, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir beaucoup de choses, mais il y a finalement un conflit d'intérêts. Et donc, on veut... des avantages, des points qui appartiennent à l'autre, on veut dominer, mais chez Amalek, il s'agit d'autre chose. Amalek veut la destruction d'Israël, c'est tout.
Donc le Hamas...
C'est la raison pour laquelle je dis pas les Allemands, mais les nazis,
oui,
ont été identifiés comme étant Amalek parce qu'il y avait une haine radicale d'Israël. Il faut comprendre que quand les nazis étaient en train de perdre la guerre, ils ont consacré leurs dernières ressources d'énergie, de véhicules, à déporter, à assassiner les Juifs. Au lieu de les utiliser, par exemple, pour se défendre ou pour se sauver, vous voyez ?
Oui.
C'est là où on a quelque chose qui est hors du commun, qu'on ne peut pas dire que l'Égypte, la Jordanie, ou, vous voyez, tous les pays ont toujours eu des soucis avec leurs pays frontaliers. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, ça a duré des siècles. Hein. Ça c'est pas de l'ordre d'un malaise, ça c'est de l'ordre de la haine entre les peuples. C'est bien triste, mais c'est d'une nature différente. C'est la nature de l'égoïsme des peuples qui veut souvent prendre ce qui est à l'autre. Alors il y a ça aussi, on va dire, les Palestiniens, etc. Il y a une question de territoire, il y a des revendications qui peuvent être des revendications précises, vous voyez.
Oui.
Mais chez le Hamas, là, on a vu le 7 octobre quelque chose qui était d'une nature différente, qui était purement de la haine.
Oui, une haine viscérale.
Une haine visérable, terriblement cruelle, et qui nous renvoie au nazisme, qui nous renvoie aux périodes les plus tristes de l'histoire d'Israël. Là, il y a quelque chose. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est palestinien, c'est Amalek, mais que le Hamas est une idéologie nazifiante qui s'appuie sur ce même courant de haine. Oui, ça me paraît Ça me paraît...
Et ça vous paraît juste, correct. Ça me paraît juste. Il y a des éléments qu'on retrouve.
Ça me paraît juste. Il y a des éléments communs. Et alors, les éléments communs nous renvoient au fait que nous aussi, on a... Amalek a pu nous attaquer quand on était... quand on était désunis, le Hamas a fait pareil. Et là, on voit très bien qu'ils sont très très bien renseignés sur l'état de l'opinion, sur l'état des esprits. Il y a quelque chose de commun là, il me paraît flagrant.
Alors Raoul, dernière question. Le mois d'Adar, Pourim, deux éléments qui reflètent joie intense et délivrance du peuple juif. Comment pouvons-nous être joyeux cette année alors que la guerre n'est pas finie, alors qu'il y a encore 134 otages qui ne pourront pas fêter Pourim et après toutes nos pertes?
C'est une excellente question. Je suis vraiment très contente que vous me la posiez parce que c'est une question qu'on se pose tous. Et j'ai lu récemment une rabbanie qui s'appelle Esther Rosenbaum qui a écrit une sorte de parodie du texte de Kol Nidre, dans laquelle, à la veille de Kol Nidre, on est tous fautifs et on demande à Kadosh Baruch Hu de permettre, même ceux qui ne sont pas en or, de prier et de célébrer Kippour. Elle fait un parallèle, elle fait un patchwork comme ça, dans lequel elle dit « Je demande à toutes les victimes, aux Khatoufim, aux familles, aux morts, à ceux qui sont morts au combat, à ceux qui sont morts le 7 octobre, à ceux qui sont morts, et à leurs familles, aux orphelins, aux veuves, je leur demande de me permettre, vous voyez, dans le même langage qu'on dit à Kol Nidre, de les attirer à nous, les Hitpalel, permettez-nous de, alors pas, de, pas seulement de prier, mais de célébrer, de se réjouir, et de célébrer authentiquement la fête de Pourim, parce que il y a quelque chose dans la célébration de la fête qui ne doit pas disparaître. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais laisser aux ennemis la joie de faire disparaître ce qui est essentiel pour nous. Donc il y a dans Pourim une dimension d'espérance. Il y a cette capacité qu'au cœur du Esther Panim, puisque Pourim c'est le moment, c'est le... La Médiat Esther, c'est le texte où le nom de Dieu n'apparaît pas, où il est, comme disent nos textes, caché. Comme aujourd'hui, où la présence divine, elle est cachée. Celui qui voit dans les miracles de quelques... des réussites de Tsahal, des délivrances de certains, qui voit la main d'Hachem, il la voit parce qu'il veut bien la voir, mais on peut aussi voir le noir. Et c'est là où il est important d'affirmer notre conviction, notre espérance, et ne pas laisser la peine détruire la joie. Je vais vous dire, dans ma situation particulière, je suis en deuil, j'ai perdu ma sœur il y a quelques semaines.
Excusez-moi,
je me suis renseigné pour mes neveux qui sont dans l'année de deuil. Alors c'est très spécial, ils sont dans le deuil, mais ils doivent quand même célébrer pour Pourim. Alors ils le célèbrent de façon plus discrète. D'abord parce que c'est difficile pour eux de supporter le bruit et la joie de Pourim, mais ils le célèbrent. Il n'est pas question de laisser les événements qui peuvent nous obscurcir les cœurs et les yeux, de les laisser gagner. Vous voyez, il y a quelque chose d'essentiel qui s'appelle, que le Maharal appelle Netzach Israël, qui, lui, doit s'exprimer, auquel il faut donner une place. Il ne faut jamais laisser éteindre la lumière. Il faut savoir qu'il y a de l'obscurité, mais il faut laisser la lumière nous faire voir plus haut, nous donner à espérer la délivrance d'Israël, la délivrance des rescapés, la victoire contre le mal, et Bezrat Hashem, la paix véritable.
Amen.
Voilà. Alors à tout le monde, je me permets de souhaiter Pourim Sameach, un Pourim de joie envers et contre tout. C'est un combat cette année de vivre Pourim et de restaurer cette unité par les mitzvot de Pourim, la mitzvah de Mishloach Manot, des cadeaux qu'on fait, non pas à des pauvres, mais à n'importe qui, parce que simplement on veut exprimer l'amour qu'on doit à l'autre, la volonté de vivre ensemble dans l'amitié, cette mitzvah, elle doit unifier tout Israël et elle doit restaurer cette unité qui est toujours fragile, toujours compromise.
Raoul, merci beaucoup. Encore une fois, une interview très intéressante et très touchante. Je vous souhaite aussi de passer un Pourim Sameach, un Pourim joyeux et rempli de bonnes choses. Et on espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle interview sur les ondes de Cannes en français.
Amen, avec plaisir et à bientôt, j'espère.